Bonjour à toutes et à tous et un grand merci à la maison Heinrich Heine pour son invitation. Donc avant de voir cette Valkyrie dans la version mise en scène par Patrice Chéreau, une introduction à l'œuvre. Donc la Valkyrie est tirée du cycle d'opéra La Tétralogie de Wagner, aussi appelé Le Ring. C'est un ensemble de 4 opéras, un prologue et 3 journées. Donc l'Or du Rhin, pour ceux qui étaient là la dernière fois, vous l'avez vu, vous le connaissez. Ensuite la Valkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des Dieux. Alors donc c'est un ensemble vertigineux qui a imprégné des mythes et légendes nordiques, germaniques. Environ 15 heures de spectacle au total. 34 personnages, 125 instrumentistes. C'est une œuvre monumentale qui a mis près de 30 ans à voir le jour. Son écriture débute en 1848 et ce n'est qu'en 1876 que Le Ring est créé dans sa totalité à Bayreuth, en Bavière. Alors dans cette œuvre, on a des intrigues qui se mêlent, des strates temporelles qui se chevauchent. C'est pas toujours très simple de s'y retrouver. Pour ceux qui connaissent, j'imagine que vous voyez de quoi je parle. Donc on va essayer de déblayer un petit peu tout ça en ce qui concerne la Valkyrie. D'autant plus qu'il y a des dieux, des créatures légendaires, des hommes, il y a un petit peu de tout. Donc dans les grandes lignes, pour vous résumer la tétralogie, pour que vous ayez bien en tête l'intrigue principale du Ring, de cet ensemble de 4 opéras. Donc l'histoire, c'est celle du vol du Rhin, qui est le vecteur de toute puissance et de richesse, qui symbolise aussi le mal et le renoncement à l'amour. Alors deux lignées rivales vont s'affronter pour récupérer l'or du Rhin qui est symbolisé par un anneau. Donc d'un côté, la lignée des dieux, incarnée par Wotan, ou Wotan en français, Wotan. Et l'autre lignée, c'est celle du nain Alberich, le roi d'un peuple souterrain qui est appelé le Nibelungen. Donc ils vont tout mettre en œuvre pour récupérer cet anneau. Et c'est finalement Siegfried, le descendant de Wotan, qui va y parvenir. Mais l'or, donc cet anneau, est maudit et toute personne qui tente de s'en emparer court à sa perte. Donc c'est pour ça que sa quête aboutira au crépuscule, à la fin des dieux. Alors pour ce qui est de la Genèse, en un mot, donc il faut savoir que c'est Wagner qui rédige lui-même les livrets de chacun des opéras. Donc non seulement il écrit la musique, et en plus de ça, il écrit le texte. Donc son point de départ, c'était la mort de Siegfried. La mort de Siegfried, c'est l'équivalent du Crépuscule des Dieux, mais à l'origine, il l'avait intitulé comme ça. Donc ça deviendra le 4e opéra de cette tétralogie, donc la 3e journée. Donc la mort de Siegfried raconte justement cette fin du monde des dieux maudits par la faute originelle de Wotan, mais une fin du monde qui finalement entraînera la création d'un autre monde, donc ce n'est pas si négatif que ça, qui sera fondé sur la rédemption par l'amour. Et donc ce crépuscule des dieux s'inspire du Ragnarok, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est dans la mythologie nordique, c'est une fin du monde prophétique, voilà, qui entraîne la création d'un nouveau monde, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Donc Wagner rédige le livret à partir de 1848, de cette mort de Siegfried, et il enchaîne avec l'écriture d'un autre opéra, Le Jeune Siegfried. Donc ici, vous l'avez peut-être connu, ce sera l'opéra Siegfried, tout simplement. Et là, il reviendra sur la jeunesse de son héros. Donc au départ, Wagner pensait se contenter de ces deux œuvres uniquement. Puis il s'est rendu compte que finalement, trop d'éléments de l'intrigue étaient passés sous silence. C'est pour ça qu'il va imaginer deux autres drames. Siegmund und Sieglinde, ou La punition de la Valkyrie, et L'or du Rhin. Donc ces opéras vont lui permettre d'éclaircir les événements qui précèdent la naissance de Siegfried. Alors l'écriture de la musique, elle commence à partir de 1853, et ce double travail à la fois littéraire et musical font de Wagner un artiste pleinement accompli, le père d'une œuvre totale, donc Gesamtkunstwerk en allemand, donc à savoir une œuvre qui allie musique et gestes. Donc maintenant, on va en venir à la Valkyrie, donc je le répète, le 2e opéra de cette tétralogie. C'est finalement peut-être l'opéra qui est le plus populaire des 4, et parce que le public ressent une grande sympathie vis-à-vis des protagonistes. Vous allez voir, donc là, je vais vous proposer un petit résumé de l'œuvre pour vous resituer le contexte. Donc c'est un opéra qui se découpe en 3 actes. Des années ont passé depuis L'Or du Rhin, donc ce prologue de la tétralogie. En fait, dans le monde des dieux, des immortels, le temps est infini et on ne sait pas combien de temps s'est passé depuis l'or du Rhin. C'est pas indiqué dans l'opéra, mais on imagine qu'il s'est écoulé des années, peut-être des milliers d'années. Donc tout débute par une tempête. Un homme est en fuite, il est poursuivi par des ennemis et trouve finalement refuge chez une belle jeune femme, Sieglinde, une jeune fille malheureuse qui a été mariée de force à un guerrier qui s'appelle Hunding. Alors l'homme en fuite, dans un premier temps, ne veut pas révéler son nom. Donc Hunding rentre chez lui, il découvre ce mystérieux voyageur et ça lui plaît pas trop de le voir seul avec sa femme. Donc, et puis d'autant plus que cet homme, donc ce mystérieux voyageur, ressemble à sa femme. Donc là il se dit, c'est quand même pas très... C'est curieux, il a une impression bizarre. Donc Siegmund, enfin je l'ai nommé, pour ne pas le nommer, donc c'est Siegmund, peut-être que vous l'aurez reconnu si vous connaissez l'histoire. Le voyageur raconte son histoire, il a perdu sa mère et sa mère a été tuée par des ennemis et sa sœur a été enlevée. Et depuis, il les cherche, il a été élevé par son père dans la forêt, ils ont été séparés et depuis il erre en solitaire et surtout il apporte le malheur partout où il passe. Donc à l'écoute de ce récit, Hunding, le guerrier, n'est pas toujours pas convaincu, il aime pas ce voyageur qui risque d'apporter le malheur sur sa maison. Donc il décide qu'ils s'affronteront le lendemain, mais en revanche, il est obligé de l'héberger le soir parce que ce sont les lois de l'hospitalité, il est obligé de l'hospitalité, de le recevoir. Donc alors que tout le monde part se coucher, Siegmund, notre voyageur, remarque une épée qui a été plantée dans un frêne. Et ça lui rappelle une épée providentielle dont lui a parlé son père et dont il lui a beaucoup parlé. Alors avant qu'il puisse se poser davantage de questions, Sieglinde, la jeune femme, paraît. Elle lui dit que l'épée a été plantée ici le jour de ses noces malheureuses par un vieillard borgne. Donc personne depuis n'a réussi à se l'approprier. Et celui qui parviendra à le faire, vengera quelque part l'honneur de Sieglinde qui avait été mariée de force. Donc les deux jeunes gens, Siegmund et Sieglinde, se regardent et ils sont attirés l'un par l'autre. Ils se reconnaissent en fait, car ce sont les enfants jumeaux d'un certain Velze, le père de Siegmund, et Sieglinde est la fameuse sœur que Siegmund avait perdue, qui avait été enlevée par des ennemis. Donc dans son enthousiasme, Siegmund tente d'arracher l'épée du frêne, il y parvient, et là c'est le bonheur absolu. Siegmund et Sieglinde se livrent alors à une passion incestueuse et décident de fuir ensemble. Donc, acte 2, nous voici du côté des dieux. Maintenant, on retrouve les personnages de l'or du Rhin, Wotan, le dieu des dieux, et son épouse Frigga. Wotan discute avec sa fille, Brunhilde, qui est une valkyrie et qui est sa fille préférée. Il lui demande de sauver Siegmund lors de son combat le lendemain avec Hunding. Donc, en fait, c'est le père de Siegmund Wotan, on ne le sait pas encore à ce moment-là, mais on s'en doute, parce que le vieillard borgne, Donc en fait, c'est le père des deux jumeaux. Et pour Wotan, Siegmund représente le seul moyen de s'emparer de... Vous me dites si vous êtes perdu, parce que c'est dense. Mais donc, Wotan a promis... Alors, c'est là où c'est un peu complexe. Wotan a promis au géant Fafner qui détient l'anneau, il ne lui a pas promis, mais il ne peut pas le récupérer lui-même. Donc, il est obligé de trouver quelqu'un qui lui permettra de le faire à sa place. Et cette personne, c'est Siegmund. Et c'est pour ça qu'il demande à Brunhild, son autre fille, de l'épargner au combat pour qu'il puisse récupérer l'anneau. Jusque-là, ça va à peu près. Tout ça, c'est compté sans Frigga. Frigga, qui est donc l'épouse de Wotan et qui est la gardienne des lois du mariage. Alors elle, ça lui va pas du tout ce plan pour deux raisons. La première, c'est que Wotan l'a trahi puisqu'il a eu ses deux jumeaux avec une mortelle. Donc c'était pas elle, en tout cas, ça elle en est sûre. Et en plus de ça, les deux jumeaux, Siegmund et Sieglinde, se sont livrés à une passion incestueuse. Frigga est la déesse des lois du mariage. Voilà, c'est impossible. Et elle lui demande... Elle demande à Wotan de ne pas épargner Siegmund et qu'il meure surtout au combat. Alors pour Wotan, c'est très très difficile, mais il n'a pas le choix et il va tristement accepter et demander à Brunhilde d'aller annoncer, enfin qu'elle annonce à Sigmund sa mort prochaine. Là où c'est intéressant, c'est qu'on voit que depuis l'heure du Rhin, Wotan perd d'opéra en opéra un peu de sa puissance. Le dieu des dieux n'est plus le tout-puissant. Il a dû faire ce compromis sur l'anneau et maintenant, il est obligé de faire ce compromis sur son propre fils. Et on peut aussi préciser que ce n'est pas une simple scène de ménage, parce que souvent la scène entre Wotan et Fricka est un peu réduite à une scène de ménage de couple. Mais si Fricka est un personnage qui n'évolue pas trop, qui est assez fidèle par rapport à elle-même, elle permet l'évolution des autres personnages et donc conduit à cette faiblesse de Wotan. Alors, donc Brunhilde va se rendre sur le lieu du combat et quand elle voit Sigmund et Sieglinde qui sont épris l'un de l'autre, elle se dit « c'est impossible, je ne peux pas tuer Sigmund ». Au fond d'elle-même, elle a comme une intuition, elle se dit « il faut l'épargner ». Donc elle décide d'épargner Sigmund et là Wotan est contraint d'intervenir en personne et dans sa fureur il fait en sorte que Sigmund meure, il tue le guerrier dans le même instant et l'épée qui était sortie du frêne, Notung, est détruite. Brunhilde s'enfuit. Nous voici à l'acte 3. Là, c'est la scène la plus connue de tout l'opéra et peut-être de tout Wagner. C'est la chevauchée des Valkyries. Donc, alors, les Valkyries, ce sont ces vierges guerrières immortelles qui ramènent les corps des défunts, des héros défunts au Valhalla, la demeure des dieux. Donc voilà, dans cette chevauchée furieuse. Donc, Brunhilde demande l'aide de ses sœurs. Elle leur raconte toute la situation, mais ses sœurs disent que c'est impossible. Elles ne peuvent pas désobéir à leur père. Enfin, leur essence, c'est de lui obéir. Elles sont à son service. Donc Brunhilde finit par reconnaître sa faute entre guillemets devant son père. Elle a certes désobéi en protégeant Sigmund, mais c'était par amour et elle pensait justement exprimer la voix intérieure de Wotan lui-même. Finalement, c'était son vouloir premier que d'épargner Sigmund. Mais le châtiment est décidé. Le dieu va priver sa fille de son essence divine et la transformer en simple mortelle. Il la plonge alors dans un sommeil, l'entoure de flammes et décide que seul un héros intrépide pourra franchir ses flammes et donc la sauver. Donc c'est une scène magnifique dans tout l'opéra et dans tout Wagner. Ce sont les bouleversants adieux de Wotan à sa fille. Alors, ce qui va être intéressant maintenant que vous connaissez un peu l'histoire, c'est de vous parler de la musique. Donc une partition passionnée, incandescente. Et chez Wagner, ce qui est très intéressant, ce sont les leitmotifs, qui sont des thèmes qui reviennent régulièrement, soit pour désigner un personnage, un sentiment ou un objet. Le Ring compte pas moins de 91 thèmes différents, qui au total retentissent, tenez-vous bien, 2381 fois. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que chez Wagner, l'orchestre n'a pas un rôle de simple accompagnateur. Il prend pleinement part à l'action. C'est même lui l'action quelque part, puisque en faisant retentir ses leitmotifs, il permet de suggérer des choses au public, au spectateur. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, par exemple, dans la Valkyrie, le thème du Valhalla, qui est la demeure des dieux, résonne quand Sieglinde parle de celui qui a planté l'épée à l'acte 1. Vous vous souvenez sans doute. Et en fait, c'est Wotan, donc ça évoque la demeure des dieux. Donc, c'est intéressant de voir que là, c'est l'orchestre qui récupère cette suggestion. Donc, on l'a dit, les leitmotifs peuvent exprimer des sentiments comme l'amour, la passion, la colère, des objets, l'épée ou l'anneau, ou encore des entités comme le renoncement, par exemple. Donc je vous propose d'entendre quelques extraits, peut-être pour mieux vous rendre compte. Nous sommes sur YouTube, donc il est possible qu'il y ait des pubs qui se déclenchent au moment où je vais déclencher la musique. Ne nous en voulez pas, on va prier pour qu'il n'y en ait pas. Donc par exemple, je vais vous faire entendre le thème de la rédemption par l'amour. Donc voilà, donc c'est un motif que vous pourrez entendre. Voilà, la pub est là. Je l'arrête immédiatement. Alors, c'est pas précisé sur ce sont des courts extraits. Si ça vous intéresse, c'est un monsieur qui a regroupé tous les leitmotifs du ring. Donc, vous pourrez éventuellement, on pourra regarder ensemble à la fin pendant le petit goûter si vous le souhaitez. Voilà. Donc, un autre motif dont on a parlé, donc Zinglin 2, donc pour évoquer le personnage. Voilà, peut-être celui que je voulais vraiment vous faire entendre, c'était l'épée Notung, donc là qui est chantée par, il me semble que c'est Sigmund. On a cette octave de l'aigu vers le grave, donc pour symboliser l'épée. Donc il y en a énormément des leitmotifs et vous allez sans doute en entendre plein tout à l'heure. Donc pour éviter les pubs, on va pas s'attarder trop dessus, mais voilà, ça vous donne un petit aperçu. Et l'autre chose que je voulais vous dire par rapport aux motifs, à la musique, qui est assez saisissant, c'est en fait le début de la Valkyrie. Nous sommes sur une image fixe qui est répétée à l'infini, mais qui est mouvante. Ici, elle symbolise la tempête. Donc, avec un grondement du ré grave, on a une sorte d'immobilité harmonique aux cordes, comme ça. Mais on n'a pas l'impression que c'est immobile, puisqu'il y a ces crescendo, décrescendo, et qui évoquent la tempête. Et on avait, si vous vous souvenez, et si vous l'avez entendu, dans l'or du Rhin, un peu le même principe pour l'ouverture, où là, on était sur un accord de mi bémol majeur, donc quelque chose de très lumineux, avec des entrées différentes des instruments successives, les unes après les autres. Et donc sur cet accord de mi bémol et qui évoquait un peu le flot de l'or du Rhin comme ça, et c'est assez intéressant. Alors on va essayer de les écouter s'il n'y a pas de pub. Par exemple, voilà l'or du Rhin, le début. Donc là on est sur un mi bémol imperceptible. Alors on va s'arrêter là, parce que ça dure encore très longtemps, et on a les instruments qui entrent comme ça les uns après les autres. Voilà, donc pour cette immobilité qui installe vraiment, qui pose le décor. Alors, donc un dernier mot sur les leitmotifs. Donc ce n'est pas Wagner qui a inventé le procédé. Par exemple, Karl Maria von Weber l'avait déjà utilisé avant lui, mais en revanche c'est Wagner qui va le généraliser. Et dernière chose qui est intéressante aussi à propos de la musique, on n'a quasiment que des duos en fait dans la Valkyrie, enfin en tout cas des grands duos, Sieglinde de Sigmund à l'acte 1, Fricka Wotan à l'acte 2 et Brunhilde Wotan à l'acte 3, et ça c'est intéressant aussi de le remarquer, donc quand vous l'entendrez tout à l'heure vous pourrez constater. Alors, lors de la dernière fois avec Bettina Auer, on avait parlé des personnages féminins, et je me suis dit que c'était intéressant d'y revenir, parce que là, on a deux nouveaux personnages féminins assez forts qui arrivent dans cette Valkyrie. Donc, on retrouve Fricka, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Et il y a également donc Sieglinde, donc qui est donc je vais citer la chanteuse Anya Cilia qui donne finalement peut-être la meilleure définition du personnage. Donc c'est un rôle d'une seule pièce qui donne tout et qui renonce à tout. On ne peut pas le jouer, on l'est ou on l'est pas. Ce personnage n'existe que pour mettre au monde Siegfried, elle ne se développe pas. Mais il faut donc une chanteuse assez... n'importe qui, comme elle le dit, ne peut pas le chanter. Il faut une chanteuse qui dégage une chaleur, quelque chose de très très féminin, voilà, dans ce sens chaleur, parce que finalement c'est la mère de Siegfried, elle a cette douceur en elle, et elle, voilà, elle est là vraiment pour l'amour, et elle est prête à mourir au nom de l'amour. Donc voilà, ce personnage très fort de Sieglinde. Et le personnage sans doute le plus emblématique de la Valkyrie, c'est Brunhilde, la fille de Wotan, la Valkyrie principale. Brun signifie, alors je me tourne vers ceux qui connaissent mieux l'allemand, mais à peu près, disons, armure, protection. Et Hild évoque le combat. Donc c'est un personnage qui va beaucoup évoluer. On disait que Frigga n'évoluait pas trop, par exemple. Brunhilde, elle va beaucoup évoluer. Quand elle se présente sur scène, c'est un personnage guerrier, très joyeux, enthousiaste. Et petit à petit, elle va gagner une profondeur autour de l'amour vraiment très, très importante. Et vocalement, c'est un rôle très, très sportif. C'est peut-être le rôle, enfin en tout cas un des rôles les plus durs de la tétralogie, qui balaye la tessiture, qui demanderait peut-être même deux voix distinctes, une voix de mezzo-soprano et une voix de soprano. C'est pour ça que parfois on trouve des mezzos ou bien des sopranos qui interprètent le rôle, ça dépend vraiment. J'ai l'impression que récemment c'est plutôt des voix de soprano dramatique, mais certaines des créatrices étaient des mezzos, donc voilà. Les deux sont possibles. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que dans la Valkyrie on est sur une tessiture plus centrale et sur le Siegfried c'est beaucoup plus tendu et dans le crépuscule on réunit les deux tessitures. Donc voilà, faut vraiment que la chanteuse quand elle chante les quatre jours d'affilée qu'elle se préserve au maximum car c'est un rôle très très difficile. Donc Brunhilde, on le disait, cette profondeur donc elle est, en fait elle est, ce qui est intéressant c'est qu'elle est touchée par l'amour terrestre en fait quelque part et elle va s'affranchir ainsi de l'ordre divin, donc elle a une vraie intuition, une vraie psychologie qui se développe et c'est donc voilà le seul personnage qui va passer de la condition divine à la condition humaine. Alors ces personnages de la tétralogie ne sortent pas de nulle part, ils sont issus de beaucoup de légendes nordiques germaniques. Donc Wagner avait déjà un peu recours à ce type de personnage dans son opéra Les Fées, qui n'est pas très connu, daté de 1833. On avait une dimension merveilleuse et quelques années plus tard, il puise aussi dans la mythologie nordique pour son vaisseau fantôme. Alors pour ce qui est de la tétralogie, il s'inspire principalement de deux récits consacrés à la légende de Siegfried, publiés au tournant des 12e et 13e siècles, et qui eux-mêmes en fait sont regroupés dans la mythologie germanique de Jacob Grimm, qui est une compilation romantique de toutes ces histoires mythologiques. Alors le premier texte qu'on retrouve, c'est la chanson des Nibelungen, qui est une épopée germanique nourrie donc de ces contes scandinaves. Le texte a notamment pour sujet donc les exploits et la mort de Siegfried, qu'on retrouve dans le Crépuscule des dieux. Et l'autre texte dont s'inspire Wagner essentiellement, ce sont les Chants de Leda, peut-être connaissez-vous. Et là, on découvre d'autres personnages comme Wotan, donc qui s'appelle Odin dans le texte. Sa femme, c'est Frigg, donc Frigga, et les Valkyries, elles viennent de là aussi. Et Wagner, en fait, il va pas copier tout simplement ce qu'il lit, il va s'approprier cet univers et recréer tout un monde qui lui est propre. En fait, les sources ne sont qu'un prétexte. Wagner va vraiment recréer tout un monde. Alors, contrairement à d'autres compositeurs, c'est intéressant de voir que Wagner s'intéresse davantage aux légendes du Moyen-Âge qu'à l'Antiquité grecque, par exemple. Mais ceci dit, la tragédie grecque le fascine. Et la preuve, c'est que le terme tétralogie fait écho à des fêtes qui étaient consacrées aux dieux Dionysos, donc les Dionysis, au cours desquelles des concours dramatiques étaient organisés. Chaque poète devait alors présenter un ensemble de quatre pièces, une trilogie dramatique et un drame satirique. Alors c'est une structure, voilà, c'est pièce qui est assez proche de notre tétralogie, un prologue et trois opéras, trois journées. Et aussi, on peut préciser que le titre complet du Ring, c'est l'Anneau du Nibelung, festival scénique, en un prologue et trois journées. Donc, c'est dans le titre même qui peut renvoyer donc à ce concours grec. Voilà. Donc Wagner, il se contente pas simplement d'emprunter à la tragédie grecque, il la modernise. On le disait, l'importance de l'orchestre, et l'orchestre, c'est ici lui qui endosse le rôle du chœur antique. Donc je cite Wagner, « J'ai composé un chœur grec, mais un chœur qui serait pour ainsi dire chanté par l'orchestre. » Donc ça, il nous dit ça à propos de la marche funèbre de Siegfried dans Le Crépuscule des Dieux. Donc ça, ce sera pour une autre séance, mais c'est intéressant de voir que c'est déjà là. Donc l'orchestre prend le rôle de réflexion et de commentaire qui incombait au chœur antique, qui est toujours tenu à distance de l'action. Donc ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure à propos des leitmotifs. Alors, bien sûr, on l'évoquait en ouverture de cette introduction, difficile de parler de Wagner et de la tétralogie sans parler de Bayreuth. Parce que Wagner, il ne s'est pas contenté de donner un texte et une partition à ses opéras, il leur a aussi donné une salle. Donc une salle qui est édifiée par Otto Brückwald, donc c'est le palais des festivals de Bayreuth sur la colline sacrée, une construction donc qui commence le 22 mai 1872, qui est le jour du 59e anniversaire du compositeur. Donc 4 ans plus tard, le festival et son théâtre sont inaugurés. La tétralogie devient une œuvre totale dans tous les sens du terme cette fois-ci, et c'est pour la première fois que le cycle est vraiment donné dans son intégralité. Donc Wagner, il souhaitait fonder un lieu destiné à favoriser la communication, la communion même, entre le public et la scène. Donc pour cela, il décide d'opter pour une salle en forme d'amphithéâtre. On retrouve encore le côté un peu grec, romain, antique en tout cas. Et rien ne vient troubler la vue du spectateur, pas même l'orchestre qui est dissimulé dans une fosse qui est surnommée l'abîme mystique. Et qui est construite un petit peu en inclinaison dans la continuité de la salle. Donc c'est un triomphe, cette première représentation du Ring, c'est vraiment un triomphe, mais tout ça aurait pu s'arrêter là, car juste après, le festival a failli faire faillite, il fait faillite même, et sans les subventions de l'État et de mécènes, tout aurait pu s'arrêter. Alors à la mort de Wagner, le festival est repris en main par sa femme Cosima. Elle agrandit le répertoire, donc on ne donne plus que le Ring, mais aussi les autres opéras de Wagner, Tristan et Isolde, Lohengrin, Parsifal, etc. Donc à la mort de... c'est Cosima qui reprend les rênes, et tous les opéras de Wagner vont progressivement faire leur entrée de 1886 à 1901. Alors pour terminer, comme je vois que le temps passe et qu'il faut aussi dire un mot du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le Ring du centenaire, le Ring par Chéreau et Boulez. Donc c'est une production qui a fait beaucoup, beaucoup parler d'elle. Donc à l'époque, on voit tout type de mise en scène du Ring de Wagner, des mises en scène pompeuses, dépouillées, futuristes, il y a vraiment de tout. Et ce Ring de Chéreau va détonner dans ce paysage. Cette fois-ci, l'action ne se passe plus du tout au Moyen-Âge ou dans un espace neutre ou intemporel. Elle est très, très ancrée dans l'histoire. Elle est ancrée à l'époque de Wagner, au 19e siècle. Et là, c'est le siècle du capitalisme, de l'industrialisation. Et là, les conservateurs, les plus conservateurs qui sont dans le public, qui aiment bien les mises en scène très très légendaires, historiques, ils crient au scandale parce qu'on voit les filles du Rhin sur un barrage hydroélectrique, elles sont déguisées en prostituées. On a Wotan qui porte un frac. Enfin voilà, tout est un peu surprenant dans cette mise en scène. Vous allez voir tout à l'heure la Valkyrie, je ne vous en dis pas plus. Mais ce qui est important de savoir, on va finir là-dessus, c'est que si la proposition de Chéreau va heurter dans un premier temps, lors de sa dernière représentation à Bayreuth, donc en août 1980, parce que la production a été reprise, c'est un triomphe et il y a même près de 90 minutes d'applaudissements et plus de 100 rappels. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Donc, je ne suis pas une spécialiste de Wagner à proprement parler. Le spécialiste en question n'est donc malheureusement pas venu. Mais si je peux apporter quelques éclaircissements, n'hésitez pas. Et après, il y aura un petit goûter pour ceux qui le désirent juste à côté.
Sur la relation entre Wagner et Nietzsche. Pourquoi Nietzsche, après, il a refusé la musique de Wagner?
Alors là, je ne saurais pas vous répondre, je ne connais pas assez ce pan-là. Ah, bon, on a la réponse dans le public, c'est parfait.
Bonjour, messieurs, dames. C'est assez bien connu parce que Nietzsche, évidemment, il était scandalisé par Parsifal, notamment cette symbiose religieuse partiellement chrétienne. Enfin, c'est un mélange un peu de tout. Et c'est là. D'abord, il était gravement malade parce que le Nietzsche, il souffrait toute sa vie. Mais c'est comme ça qu'il est arrivé à la conclusion que le plus grand opéra du monde, c'était Carmen. Pour se venger, il y avait aussi la fameuse publication justement parce que Nietzsche c'est un grand spécialiste du monde hellénistique et notamment du théâtre, qu'il a beaucoup écrit sur le Geburder Comedy aus der Geistes. Voilà. Donc tout ça c'est bien connu. Et la dernière goutte, parce que dans son antichristianisme presque hystérique, c'était la dernière goutte. Il a choisi Carmen. Hein, voilà.
Et a-t-il fait le bon choix ou pas? Oui, le monsieur.
Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des chanteurs qui interprètent la tétralogie de Chéroboulez?
Alors là, c'est pareil, je n'ai pas trop développé ce pan-là, en restant vraiment sur l'œuvre. Mais si parmi vous, certains veulent à nouveau prendre la parole... C'est possible.
En tout cas, Brunhilde, c'était Gwyneth Jones.
Oui, tout à fait.
Qui a été vraiment... elle n'a pas chanté que ça, mais enfin, elle est devenue encore plus célèbre dans le monde lyrique après son interprétation des cinq rings à Bayreuth.
Puis ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, elle a abordé tout type de rôle. Donc, ça montre bien que la voix de Brunhilde, finalement...
Elle a chanté beaucoup de Strauss, elle a chanté Tosca,
elle a même chanté Médée.
Oui, elle a chanté aussi la maréchale, je crois, dans Le Chevalier. Et c'était vraiment c'était le rôle de sa vie, je crois. Et si je puis rajouter quelque chose, je me souviens que les jumeaux, Sieglinde et Sigmund, je crois que c'était Janie Altmaier qui chantait Sieglinde et Sigmund, c'était Siegfried Jérusalem, et ils se ressemblaient beaucoup.
Ah oui.
Physiquement. C'était confondant de les voir, surtout à Bayreuth, vous savez, on peut voir les gens très facilement à la sortie ou dans les restaurants ou dans les séances de signature. Donc on allait tous un petit peu voir cette ressemblance qui était confondante. Siegfried Jérusalem et Janine Altmaier, on va les voir là tout à l'heure pendant tout le premier acte.
Eh bien, merci beaucoup pour votre écoute une nouvelle fois. Et nous pouvons donc passer à côté... pour la petite collation.